Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Étienne, tu es mathématicien ?
Oui, c'est exact. Je suis mathématicien.
Nous nous connaissons depuis très longtemps. En fait, depuis notre naissance, puisque nous sommes nés au même endroit, le même jour, à la même heure. Une espèce de jumeau.
Oui, un jumeau, même si ta voix était un peu plus grave que la mienne.
Dans cette série de podcasts, on choisit un mot ou une expression qu'on voit un peu partout dans les médias et qui peut agacer les scientifiques parce qu'il est mal utilisé. Quel est le mot que tu as choisi ?
L'expression « c'est mathématique » qu'on entend à tout bout de champ et ça m'énerve.
Et pourquoi c'est mal employé ? Donne-moi un exemple.
Parce que ça n'a presque aucun rapport avec les maths, tout simplement. On l'emploie pour dire « c'est automatique » ou « c'est certain » ou « c'est inévitable ». Par exemple, si un homme politique discute de l'insuffisance d'un budget, par exemple de la santé, il peut dire « ça va coincer, c'est mathématique ». On est quand même très 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 loin des mathématiques. Un autre exemple, un tout petit peu plus mathématique. Ce parti politique a 20% d'électeurs et tel autre 10%, et à deux, ils n'ont pas la majorité, c'est mathématique. Bon, d'accord, le fait que 20 plus 10 est inférieur à 50 est en effet un fait mathématique, mais franchement, ce n'est pas grand-chose, et ça ne mérite presque pas le nom de mathématique.
Tu exagères, 20 plus 10 plus petit que 50, il n'y a pas de doute, c'est des maths, non ?
Mais c'est si élémentaire qu'on pourrait en conclure que les maths ne sont que des banalités, des évidences, des tautologies. C'est un peu réducteur, presque humiliant pour ma profession.
Un autre exemple intéressant, l'usage de l'expression par les commentateurs sportifs. Une équipe de foot, les Bleus par exemple, est en train de perdre, disons, 3-1. Il reste 5 minutes de jeu et le commentateur dit « Allez les Bleus, mathématiquement, vous pouvez gagner ».
Là, c'est autre chose. Ça ne veut plus dire « c'est évident, c'est clair », mais ça veut dire « il n'est pas impossible que ». Intéressant, cette deuxième interprétation est presque le contraire de la première.
Mais revenons à tes banalités, comme tu dis, ou ces tautologies. Est-ce qu'au bout du compte, un raisonnement mathématique n'est pas toujours réduit à une suite d'évidences mises bout à bout ? Est-ce que ce n'est pas précisément ça, une démonstration mathématique ?
Pour simplifier, raisonner, c'est mettre bout à bout des évidences qui ne peuvent être contestées par personne. Mais la force créatrice des maths réside précisément dans l'agencement des maillons de ce raisonnement. C'est un peu comme si on réduisait la littérature aux mots. Les mots, c'est intéressant, mais un écrivain doit être capable de les écrire dans un certain ordre. Certains écrivains le font de manière exceptionnelle, et il n'est pas nécessaire d'avoir leur talent pour apprécier leur roman. En maths, c'est pareil. Certains raisonnements sont le résultat d'un travail créatif, brillant, exceptionnel, mais peuvent être appréciés par presque tout le monde. Presque tous ceux qui font l'effort d'essayer de comprendre.
Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un raisonnement que tu trouves intéressant mathématiquement ?
Voici un théorème qui n'est pas une évidence et dont la preuve date d'il y a plus de 2000 ans. C'est un peu l'exemple fétiche pour tous les mathématiciens. Il existe une infinité de nombres premiers. Alors, il faut que j'explique. Un nombre premier est un nombre qui ne peut pas se décomposer en un produit de deux nombres plus petits. Par exemple, 5 est premier, alors que 9 ne l'est pas, car c'est 3 fois 3. Un nombre qui n'est pas premier est le produit de deux nombres plus petits. Si ces nombres plus petits ne sont pas premiers, alors on peut recommencer l'opération et les décomposer eux-mêmes comme des produits de nombres plus petits. Et comme les nombres en question sont de plus en plus petits, il faut bien que ça s'arrête à un moment, et on a déjà démontré un petit théorème. Tout nombre entier est le produit de quelques nombres premiers. Par exemple, 90, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5. Alors maintenant, la liste des nombres premiers commence comme ça. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Mais est-il possible que cette suite s'arrête ? Qu'il n'y ait qu'un nombre fini de nombres premiers ? Ça n'est pas évident du tout, et pourtant je vais démontrer que ce n'est pas le cas, et qu'il y a en effet une infinité de nombres premiers. Je suis sûr que toi, Étienne, tu aurais été incapable d'imaginer l'argument que je vais te montrer maintenant. Tu as sûrement raison. Mais je crois que tu vas être capable de comprendre l'argument que je vais décrire maintenant. C'est ça les maths. On va voir, tu me mets au défi, je n'aime pas beaucoup ça. Alors, vas-y, puisque tu as l'air si fier de connaître quelque chose que je ne connais pas. Alors voilà, je vais te montrer qu'à chaque fois qu'on te donne une liste de nombres premiers, je peux en trouver un autre qui est plus grand que tout cela. Ça montrera bien qu'il y en a une infinité, n'est-ce pas ?
Oui, d'accord.
Alors c'est facile. Tu me donnes un paquet de nombres premiers. Je les multiplie et j'ajoute 1, tout simplement. J'obtiens un nombre, disons n, qui n'est divisible par aucun des nombres de la liste que tu m'as donné. Bien sûr, parce que quand je divise par l'un d'entre eux, il reste 1. Et pourtant, nous avons vu que n est un produit de nombres premiers, comme tout le monde. Et aucun d'entre eux n'est dans ta liste. Voilà, j'ai montré qu'il existe des nombres premiers qui ne sont pas dans ta liste. Il y a une infinité de nombres premiers CQFD. Ça, c'est des maths. Je n'aurais probablement jamais imaginé cette démonstration, mais je la comprends. Ça va, Étienne, t'as compris ? Tu veux que je répète ?
Non, non, c'est bon. Je crois que j'ai compris. Merci de t'inquiéter pour moi. Je ne sais pas si tous nos auditeurs auront compris, on verra bien.
Écoute, tu viens d'employer le mot clé pour définir les maths. Comprendre. Comprendre globalement un agencement de banalité placé dans un ordre pas banal. De même qu'un musicien apprécie un agencement de notes de musique. Mais alors, comment fait-on pour découvrir de nouvelles démonstrations, ou je devrais peut-être dire pour inventer de nouvelles démonstrations ? C'est un peu un mystère. Certains sont très doués pour ça et d'autres le sont moins. En maths, il y a des découvreurs, créateurs, qui ne sont pas si nombreux que ça. Mais il y a aussi beaucoup de commentateurs, ceux qui comprennent et améliorent les arguments pour les rendre de plus en plus transparents, j'allais dire évidents. Ça me fait penser à un mathématicien célèbre parmi ses collègues qui s'appelait Erdős et qui disait en plaisantant « Dieu ». Un grand livre qui contient toutes les démonstrations et parfois, il en montre une page à un humain. Quand il est décédé, quelques-uns de ses élèves ont publié un livre intitulé « Raisonnement divin »« Proofs from the book » qui contient un certain nombre de pages de ce livre imaginé par Erdős. Un peu comme un recueil de poèmes.
Ok, donc j'ai compris que tu reproches à l'expression « c'est mathématique » de n'utiliser que le niveau zéro des maths, celui des banalités, un peu comme si on disait « c'est de la littérature » en lisant une dépêche de l'AFP.
Tu as tout compris, Étienne. Bravo !
Pour conclure, comme à tous ceux que j'interviewe, quelle serait la musique que tu proposerais pour illustrer les mathématiques ?
Je n'avais pas pensé à ça. Bon, une réponse assez banale, mais adaptée, je crois, serait le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Je crois que ça illustre bien mon histoire. C'est écrit avec des do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, posé dans un certain ordre sur une partition. Et alors, quel ordre ? Divin, peut-être. Merci beaucoup, Étienne, pour cet entretien. Peut-être que la prochaine fois, ce serait bien si c'était toi qui m'interviewais. Qu'en penses-tu ? Ah ben voilà une bonne idée. Merci, Étienne. Alors, vous avez écouté Jean-Sébastien Bach, le clavier bien tempéré, prélude et fugue en fa mineur, numéro 12, BWV 857.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.